Est-ce que vous trouvez que le Seigneur est bon? Ah, c'est bien, il y en a quelques-uns. Est-ce que le Seigneur est vraiment fidèle? Est-ce qu'il est patient avec nous? Est-ce qu'il est miséricordieux? Ah oui. Et on peut vraiment le louer parce qu'on a un Dieu merveilleux, Dieu bienveillant, qui ne se lasse pas de pardonner, de nous chercher, de nous appeler. Et c'est merveilleux de le connaître. C'est mon deuxième message sur le thème « Les versets qui éclairent notre société ». Et aujourd'hui, c'est dans Matthieu chapitre 24, si vous voulez bien ouvrir votre Bible. Et nous allons regarder deux versets en particulier. Matthieu 24, c'est ce grand chapitre où Jésus répond à une question des disciples. Les disciples lui demandent « Quel sera le signe de ton avènement, de ton retour ?» Parce qu'ils ont bien compris que Jésus allait revenir. Il était là avec eux, mais il leur a dit « Il va se passer des choses et je vais revenir établir mon règne. » Ils ont dit « Mais quel sera le signe de ton retour, de ton avènement ?» Et il donne toute une série de signes en Matthieu 24, des signes plus terribles les uns que les autres. Famine, tremblement de terre, faux prophètes, guerre, persécution des croyants, etc. Et ces signes, nous les retrouvons dans l'Apocalypse en paroxysme, puisque Jésus fait bien comprendre que les douleurs vont augmenter, c'est-à-dire comme celle d'une femme enceinte, et les contractions vont se rapprocher jusqu'à la fameuse grande tribulation dont parle l'Apocalypse et Daniel. Et là, ce sera un terrible moment, le moment de la colère de Dieu. Mais la Bible enseigne que les chrétiens, l'Église, sera enlevée et qu'elle ne subira pas la colère de Dieu. Ceux qui n'ont pas l'Église baptiste ou l'Église catholique, mais l'Église voulant dire ceux qui ont cru en Jésus-Christ, qui sont scellés du Saint-Esprit, qui forment l'Église de Christ universelle, ceux-là seront enlevés à la rencontre du Seigneur. C'est écrit dans l'Épître aux Thessaloniciens, entre autres. Mais là, nous aimerions regarder deux versets qui parlent de ce commencement des douleurs dans notre société. Et le premier verset, c'est le verset 11 et 12, « Plusieurs faux prophètes s'élèveront et ils séduiront beaucoup de gens. Et parce que l'iniquité se sera accrue, l'amour du plus grand nombre se refroidira. » Et vraiment, nous devons être sur nos gardes par ces paroles de Jésus. Il y aura des faux prophètes, il y aura des faux docteurs, des faux enseignements. Et je peux vous dire, Internet pullule de ce genre de choses. Internet est un excellent outil pour faire des recherches, pour travailler, même pour les étudiants, les lycéens. Mais attention, ça pullule de toutes choses. Vous pouvez en fait trouver ce que vous voulez sur Internet. Du moment que vous tapez dans Google ce que vous voulez, il y a quelqu'un qui croit comme vous. Et je pense aussi aux chrétiens. Il faut beaucoup de discernement quand, en tant que chrétien, vous cherchez une explication biblique sur Internet. Parce que vous allez avoir toutes sortes d'interprétations possibles et imaginables, y compris des gens pas chrétiens. Et donc, je vous conseille d'avoir beaucoup de discernement, de rester surtout attaché à la Bible, à la parole de Dieu. Il y a aussi des bons commentaires bibliques. Je conseille souvent, pour le Nouveau Testament par exemple, verset par verset, le commentaire de William MacDonald, qui est un commentaire, aucun commentaire n'est parfait évidemment, mais il est vraiment solide, biblique, il reste attaché au texte, et c'est quasiment verset par verset dans le Nouveau Testament. Si jamais vous avez une question, eh bien vous pouvez chercher dans un commentaire de ce genre, mais sur Internet, vous allez avoir 120 réponses différentes, et vous allez finir dans la confusion. Mais surtout, j'aimerais souligner, l'iniquité se sera accrue, et donc l'amour du plus grand nombre se refroidira. Comme j'aime à le dire, Jésus promet un refroidissement global et pas un réchauffement de la terre. Un refroidissement moral, un refroidissement de l'humanité. Et vraiment, c'est quelque chose qu'on peut voir de jour en jour. Et quelle est la cause de ce refroidissement selon la parole de Jésus? Pourquoi il va y avoir un refroidissement dans les relations humaines? L'iniquité. l'iniquité se sera accrue, dit-il. C'est ça qui cause le refroidissement de l'amour. L'iniquité, c'est un terme dans la Bible très particulier et qui désigne la rébellion contre la loi, la révolte, la désobéissance à la loi et à l'autorité. Nous avions vu dans le premier message sur Romains chapitre 1 qu'il y a un aveuglement qui vient sur les gens lorsqu'ils se rebellent contre Dieu, lorsqu'ils ne rendent pas grâce à Dieu, lorsqu'ils refusent de voir la vérité en face. Et le bon sens, c'est qu'il y a un créateur. Eh bien, il y a un aveuglement spirituel qui les fait tomber dans des choses folles et dans des débordements de toutes sortes de débauches et de folies et de méchancetés. Bien ici, nous voyons que l'iniquité, cette révolte aussi contre l'autorité, et l'autorité à plusieurs niveaux, bien sûr, il y a l'autorité parentale, mais il y a l'autorité de la police. Comment considérez-vous les policiers ? Et ne répondez pas parce qu'il y a un policier dans la salle. Hein. Il n'a pas son uniforme, donc ça va. Comment considérez-vous les policiers ? Est-ce que vous les considérez avec mépris ? Bon, ça c'est bien. Bravo. Nous avons besoin de la police, nous avons besoin de nos militaires, nous avons besoin de nos pompiers, nous avons besoin de nos infirmières, de nos médecins. Ce sont des gens qui font un travail très important pour la société. Et les gens sont même rebelles aux médecins maintenant. Ils ne veulent plus, bien que les médecins ne savent pas tout, évidemment, mais il y a une sorte de révolte globale contre l'autorité et surtout parce qu'on est révolté contre le Créateur, contre Dieu. Et cette iniquité entraîne un manque d'amour ensuite. Quand on n'est pas dans l'autorité, ça devient le chaos. Alors bien sûr, on peut dire, oui, mais il y a tellement d'injustices dans le monde. Et c'est vrai, notre société crée des injustices, mais il y en a toujours eu, il y en aura toujours, sauf quand Christ reviendra apporter sa justice. Mais la réponse à l'injustice, ce n'est pas la révolte. La révolte amène le chaos et finalement l'anarchie. Et dans l'anarchie, il n'y a plus d'amour, il n'y a plus rien, il y a le vide absolu, c'est chacun pour soi. Ce qu'on appelle la loi de la jungle. Et encore, la loi de la jungle est beaucoup plus organisée que l'anarchie. Dans la loi de la jungle, il y a des prédateurs, des proies, il y a une organisation que Dieu a placée comme ça, et ça marche assez bien, si on peut dire. Mais dans la loi de la jungle humaine, c'est chacun pour moi. Hein. C'est pas chacun pour soi, c'est chacun pour moi. Et là, c'est effrayant. Je ne sais pas si vous avez vécu dans des situations comme ça, où plus personne ne pense aux autres, et vous dites, quelqu'un est capable, peut me tuer, peut m'écraser, les mouvements de foule, les mouvements de panique, ça peut mener à la mort en un instant. Et vous n'avez pas compris ce qui s'est passé parce que c'est chacun pour soi. Quand je pense, par exemple, au bateau hein, qui coule, ce qui peut se passer lorsqu'un bateau coule, y avait ce Concordia en Italie, hein, y avait des témoignages, bon, il y avait vraiment un grave manque d'organisation de l'équipage et du capitaine en particulier. Mais même entre les gens, certains ont vraiment aidé leur prochain. Mais il y en a d'autres, c'est « laisse-moi passer », surtout qu'il y avait une grande queue pour monter dans les bateaux de sauvetage. Et il fallait, ceux qui avaient des enfants, dire « ah ben non, tant pis, hein, t'es derrière ». Il n'y avait vraiment aucune pitié. C'était « je veux sauver ma peau ». Et quand l'iniquité augmente, quand on ne se soumet plus à aucune autorité, et encore moins à la parole de Dieu, à l'autorité de Dieu, l'amour commence à descendre parce qu'on est occupé de soi. C'est l'orgueil et l'égoïsme qui priment. Moi d'abord. Concernant l'injustice, je voulais dire un mot aussi, une parole de Jésus. C'est que quand il y a l'injustice, on dit « mais il faut faire quelque chose, on va tout casser pour dénoncer cette injustice ». On voit ça quasiment tous les jours à Paris. Hein. Jésus nous a donné un conseil inspiré et saint et parfait. Dans Matthieu chapitre 7, il dit « Ne jugez point afin que vous ne soyez point jugés, car on vous jugera du jugement dont vous jugez, et l'on vous mesurera avec la mesure dont vous mesurez les autres. Pourquoi vois-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère et n'aperçois-tu pas la poutre qui est dans ton œil. Ou comment peux-tu dire à ton frère, « Laisse-moi ôter une paille de ton œil. » Toi qui as une poutre dans le tien, hypocrite, ôte premièrement la poutre de ton œil et alors tu verras comment ôter la paille de l'œil de ton frère. Cette parole s'adresse aux chrétiens en premier, hein. Il parle de son frère. Et nous devons vraiment, avant de juger les autres ou la société ou le monde, Jésus dit, juge-toi toi-même d'abord, parce que toi, tu as des problèmes aussi. Et plutôt que de tout casser ou de dire, oui, c'est injuste, je ne comprends pas la société, les gens, blablabla, commence à déjà régler les choses dans ta vie, être juste toi-même. Et tu vas voir que ce n'est pas si facile que ça. Tu vas voir que sans Dieu, tu ne peux pas être juste, vraiment juste. Et Dieu nous appelle à regarder la poutre avant de pouvoir soigner et enlever la paille. Parce que Dieu veut qu'on s'entraide, qu'il y ait une émulation entre nous, qu'on puisse se dire des choses. Mais pour se les dire, il faut avoir déjà enlevé la poutre. Il faut déjà avoir une humilité. Et dans la société, l'humilité n'est pas ce qui est mis en valeur. C'est plutôt l'égoïsme et l'orgueil. Et ça fait qu'on est dur les uns avec les autres. Mais d'une dureté incroyable, inimaginable. Pour beaucoup, c'est « je suis le soleil » et tout le monde tourne autour de moi. Et si ça ne tourne pas bien autour de moi, je suis fâché, je suis frustré, je ne suis pas content. Jésus a dit « ce n'est pas la société qui nous rend violents ». La violence, elle vient d'où, selon les paroles de Jésus ? Du cœur. Matthieu toujours, hein ? On est toujours dans Matthieu. Matthieu 15, verset 19. C'est du cœur que viennent les mauvaises pensées, les meurtres, les adultères, les débauches, les vols, les faux témoignages, les calomnies. Voilà ce qui souille l'homme. C'est du cœur que viennent les meurtres. Vous dites, mais comment ? Mais parce que si vous avez la haine dans votre cœur, vous allez la manifester. C'est pas la société qui vous pousse à tuer les gens, ou à leur marcher dessus, ou à les écraser. C'est que dans votre cœur, il y a un truc qui cloche. Et j'en veux pour preuve les réseaux sociaux. C'est pas une bonne idée, ça, les réseaux sociaux, pour retisser le lien social. Comme dans les grandes villes, personne ne se parle. On va créer les réseaux sociaux, on va utiliser Internet pour faire des liens, retrouver les gens, parler entre soi. Et qu'est-ce que les réseaux sociaux, donc il y a Twitter, Facebook, Snapchat et j'en passe, qu'est-ce que ça charrie tous les jours dans le monde entier, les réseaux sociaux ? Des torrents de haine et d'insultes. Mais c'est vraiment des torrents. Il y a des torrents d'insultes. Il y a très peu de bonnes choses sur les réseaux sociaux, très peu de remarques positives et encourageantes. Hein. Vous avez des fleuves de gens qui, on dirait que c'est une drogue, ils insultent les autres à longueur de journée, c'est leur plaisir. Et quand je dis les gens, il ne faut pas aller loin, hein. Ça peut être nous. Hein. Parce que dans le cœur de l'homme, il y a un truc qui ne va pas. Vous pouvez lui donner des merveilleux outils formidables. Vous pouvez avoir des discours humanistes. « Oh, mais si on se met ensemble, tu verras, on va faire la fête des voisins, on va faire la fête de la musique, tu verras, la société sera tellement meilleure grâce à... » Mais le cœur, c'est le cœur qui ne va pas. Dans la fête des voisins, nous, on le fait chaque année parce que vraiment, c'est un moment important. On peut connaître les voisins et être un témoignage de Christ avec eux. Mais il y a plein de gens qui ne viennent pas parce qu'ils disent « Oh non, moi, je ne veux pas croiser l'autre en face, là. Non, il n'y a pas question que je mange avec ce... » Donc, la fête des voisins, bon, c'est assez hypocrite aussi. Hein, et c'est que ceux qui s'entendent bien qui sont là. Et la plupart des autres, ils ne peuvent pas se voir en peinture. Le cœur a un problème. Et c'est pour ça que Jésus-Christ est venu parler du cœur, pas de l'apparence. C'est notre cœur qui a besoin d'une nouvelle naissance, d'un changement. Ce n'est pas la société qui nous rend violents, c'est notre cœur tortueux. C'est frappant la violence qu'il y a dans notre société qui augmente de jour en jour. Les femmes battues, par exemple, dans les familles. Une femme meurt tous les 3 jours en France, sous les coups de son mari. Et une statistique incroyable sur les maris qui battent leurs femmes. 67%, et c'est des statistiques officielles, des tueurs de leur épouse sont des cadres. qu'on imagine, voilà, c'est l'ouvrier qui a trop bu ou je sais pas quoi. Non, 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 non. C'est le cadre qui va au bureau et le soir il rentre et il bat sa femme et un jour il la tue. Bon. Une femme tous les 3 jours. Les enfants qui sont violés par quelqu'un de la famille, qui sont battus à mort, les bébés qui meurent sous le coup des parents qui sont dépassés, les enfants qui tuent leurs parents. Une violence cachée, mais qui est pourtant là et que je veux dénoncer chaque fois que je le peux, c'est la violence contre les fœtus, contre les bébés, dans le sein de leur mère. 200 000 par an en France. La population de la ville de Rennes, qui est éliminée chaque année en France, dans le sein des mamans. Ça, c'est une violence. Parce que quand vous naissez, vous dites, j'ai échappé belle. Hein. J'aurais pu ne pas naître, parce que mes parents ont pu dire, oh, bah, finalement, toi... Pff. Et tous lesquels qui a un exemple de quelqu'un qui est né, qui a réussi quelque chose de magnifique, on dit, ah, oh, vraiment, cette personne, oh là, qu'est-ce qu'elle apporte au monde et, oui, mais elle aurait pu être avortée aussi. Et tous ceux qui en ont avorté, ils auraient pu apporter des choses au monde. Le suicide, c'est une violence contre soi-même. C'est la 3e cause de mort en France. Première cause, les cancers. Deuxième cause, les maladies cardiovasculaires. 3e cause, les morts violentes en France. Alors, il y a bien sûr les tueries, mais il y a aussi les suicides. Très important, on est un des pays où on se suicide le plus. Parce qu'on a mis Dieu de côté, il n'y a plus d'espérance, il n'y a plus d'appui, plus de valeur, c'est le chaos, c'est chacun pour soi. Et quand toi, tu n'es pas reconnu, aimé, admiré, ben, je n'ai plus rien à faire ici et je me suicide. La violence est dans les écoles, hein. Les pauvres profs, ils en bavent. Et les lycéens, le harcèlement entre eux. On a rencontré l'autre soir... Cet homme qui était harcelé parce qu'il était obèse quand il était jeune à l'école. Et toute sa jeunesse, collège et lycée, il l'a passé dans le harcèlement. Il était mis de côté, personne ne voulait lui parler. Tout ce qu'on faisait, c'est se moquer de lui parce qu'il était gros. « Ah, t'es gros, ah !» Et il a subi ça toute sa jeunesse. Et lui, il aurait pu se suicider pour le coup. Et il n'a pas fait. Il a écrit. Il avait un journal depuis l'âge de 15 ans. Il écrivait dans son journal pour... Et il s'en est sorti aujourd'hui. D'abord, il est mince comme une sardine. Je ne sais pas comment il a fait. Mais surtout, ce n'est pas ça tellement. C'est qu'il a trouvé une sortie à ce harcèlement et à cet isolement terrible. La violence dans les bureaux. Les bureaux, ça a l'air calme, ça a l'air bien. Tout le monde est bien habillé. Ben, il y a de la violence, du harcèlement. En voiture, oh là là, la violence en voiture. Aux États-Unis, c'est pire parce que les gens sont armés. Il y avait le témoignage, et je crois que j'en ai déjà parlé, de ce pasteur qui était en voiture et il a doublé un gars sur l'autoroute et il s'est rabattu un peu vite. Et le gars n'était pas content, donc il a accéléré, il s'est mis à sa hauteur et il lui a tiré une balle dans la tête comme ça en roulant. La balle, par miracle, parce que c'est vraiment Dieu qui est intervenu, n'a pas touché une partie vitale du cerveau. Donc elle est rentrée, mais elle a touché une partie non vitale. Donc il est tombé évanoui, la voiture s'est crachée, et il a été récupéré, il a été sauvé. Donc il a certaines séquelles. Mais son témoignage, en anglais sur Internet, est vraiment édifiant. Il dit, maintenant il dit à tout le monde, il dit, s'il vous plaît, arrêtez la violence en voiture. Si on vous double, ben tant pis, c'est pas grave. C'est pas la mer à boire. Vous n'êtes pas humilié jusqu'à la fin de vos jours parce que quelqu'un vous a fait une queue de poisson. Mais arrêtez ces enfantillages. Mais il essaye de plaider parce que c'est une folie. Les gens deviennent fous au volant parce que... Mais comment... La violence. Chez les religieux, il y a la violence. Le terrorisme. La violence dans tous les pays. Il n'y a pas que la France ou les États-Unis. Et il y a un autre verset de la Bible qui nous parle de cette violence, c'est 2 Timothée 3, pardon. Deuxième épître de Paul à Timothée, chapitre 3. C'est une prophétie extraordinaire, là encore, qui fait écho à celle de Jésus. « Sache que dans les derniers jours, » donc il parle bien de la fin des temps, « dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Et c'est peu de le dire parce que le mot grec utilisé par Paul là, Kalépos, en Matthieu 8, 28, c'est féroce, sauvage, dément. Les temps seront féroces, seront sauvages, seront déments. Pas juste difficiles, ça va être la folie. Matthieu 8, 28, le même mot. Et pourquoi ce sera difficile? Verset 2, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, insensibles. Déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. C'est une description horrible et terrible, mais qui correspond au visage de nos sociétés. Quand on laisse tomber le Seigneur, il y a des temps déments. Et les deux premiers mots, égoïste et ami de l'argent, il y a un jeu de mots là dans l'original, c'est qui s'aime même et qui aime l'argent. C'est ça que ça dit littéralement. Le fait de s'aimer soi, c'est une cause de violence. Mais on dit, mais non, pourquoi quand on s'aime, on est bien, on est heureux, on aime les autres? Non, c'est faux. Plus on s'aime soi-même, moins on aime les autres. Jésus a dit, il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Quand on s'aime soi-même, on veut recevoir et on prend sur les autres. Et s'ils ne nous donnent pas assez, on est fâché, on est frustré. Mais quand on donne aux autres, on est heureux, le bonheur. Et ça, c'est le message de Jésus-Christ. En tant que chrétiens, nous sommes aussi touchés par cette violence, par cet égoïsme, cet orgueil. Ça déteint aussi, ça peut déteindre sur nous. On vit dans la société, on n'est pas dans des monastères, et encore même dans les monastères, il y a de la violence aussi. Feutrée, mais elle est là. Comment faire? Mais on doit vraiment réaliser que ce n'est pas normal, ce n'est pas la volonté de Dieu, et c'était même annoncé, et on doit aller à l'encontre. On doit rester près du Seigneur et avoir l'amour de Dieu qui nous remplit. Paul aux Éphésiens dit que vous soyez remplis de l'amour de Dieu. On doit être rempli. Ce n'est pas notre amour, parce que nous avons très peu d'amour naturellement. C'est l'amour de Dieu qui est infini. On l'a chanté, et c'était bien de le chanter ce matin, comme un océan qui n'en finit pas. Vous n'avez jamais fini d'être rempli de l'amour de Dieu. Les églises devraient être des îlots, des ports où pourraient s'abriter les âmes en souffrance. Est-ce que notre église est un port pour l'abri des pécheurs perdus, des âmes en peine? Pas toujours, malheureusement. Et la volonté de Dieu, c'est qu'il y ait un tel amour entre nous, c'est que chacun qui rentre puisse bénéficier de cet amour de Dieu et soit même bouleversé par l'amour de Dieu. C'est-à-dire, mais pourquoi vous m'aimez? J'ai rien fait, qui je suis? Vous ne me connaissez pas, et puis je ne suis pas quelqu'un de très bien. Mais on t'aime parce que Dieu t'aime. On t'aime tel que tu es. Si je n'aime pas mon frère dans la foi, la Bible dit, je ne suis pas digne d'être appelé chrétien. Dieu est amour, et si je n'aime pas mon frère, je ne suis pas digne d'être appelé chrétien. C'est une phrase très forte. À nous de nous mettre devant le Seigneur. Seigneur, pourquoi moi je suis devenu dur aussi? Je suis devenu indifférent, je suis devenu égoïste, individualiste. Ce n'est pas ta volonté, Seigneur. Ce que tu veux, c'est que j'ai ton amour dans ma vie. Pour ça, il faut renoncer à soi. Jésus a dit, pour être mon disciple, il faut renoncer à soi-même. Il faut dire, Seigneur, je renonce à mes droits. Je renonce à mon orgueil, à être le premier ou à toujours être admiré. Je renonce à la flatterie, je renonce à l'égoïsme, à toujours penser à moi avant les autres. Non, je veux commencer à penser aux autres avant moi-même, à mettre les autres au-dessus de moi-même. Vous me dites, c'est impossible. Eh bien non, parce que Christ le demande et Christ nous donne cet amour. C'est impossible sans Jésus-Christ, mais c'est possible avec le Seigneur, avec l'amour de Dieu. Et des milliers de femmes et d'hommes le font. Pourquoi pas nous? La deuxième parole de Jésus dans Matthieu 24 que j'aimerais voir ce matin se trouve au verset 37-39. Donc Matthieu 24, 37-39. Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Car dans les jours qui précédèrent le déluge, les hommes mangeaient et buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Et ils ne se doutèrent de rien, jusqu'à ce que le déluge vienne et les emporte tous. Il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Nous savons que, à cause de la méchanceté, de la violence qui existait au temps de Noé, comme aujourd'hui, je dirais, hein, Dieu a dit, si je ne fais rien, toute la terre sera corrompue, le Messie ne pourra pas venir, il n'y aura plus de salut, l'humanité sera totalement fichue. Il a donc décidé d'envoyer un jugement par le déluge et de sauver tous ceux qui croiraient en lui, qui viendraient dans l'arche, dans le bateau que Noé construisait. Et Noé, la Bible nous dit, c'est Pierre qui nous le dit, était un prédicateur de la justice. C'est-à-dire, non seulement il construisait son bateau, mais il prêchait la justice de Dieu. Il disait, le jugement va venir. Si je construis un bateau, c'est qu'il va y avoir un déluge. Tous ceux qui rentrent, vous pourrez être sauvés. Aux États-Unis, donc, il y a cette organisation avec Ken Ham et Réponse dans la Genèse qui a construit une arche de Noé, grandeur nature suivant les plans de la Bible. Je peux vous dire, on peut en mettre du monde. C'est gigantesque, c'est la taille d'un pétrolier, hein, au moins, ou d'un navire de croisière, là, des grands navires de croisière, avec tous les étages, vous tenez largement tous les animaux possibles, par couple, bien sûr, et plein d'êtres humains. Et combien il y en a eu, au final, dans la Bible ? 8. C'est catastrophique, c'est abominable. Pourquoi ils ne sont pas venus? Pourquoi les autres ne sont pas venus? Jésus le dit. Ils mangeaient, buvaient, se mariaient. Noé disait, le jugement va venir. Oh, arrête, Noé était toujours négatif comme gars. Sois un peu positif dans la vie. Profite, mangeons et buvons. On va mourir. Eh bien, voilà, on va mourir. Quelle grande chose. Tout le monde va mourir. Et il y a cette indifférence, cette folie, cet aveuglement. Des fois, dans la rue, les gens disent, mais oui, moi, je veux aller en enfer. Mais mon ami, si tu savais, s'il y avait la moindre idée de ce que c'est. Et j'étais comme ça. Hein. J'étais un fanfaron, comme dit la Bible. Donc je sais que cette attitude est fréquente et vraiment profonde. C'est cette idée qu'on vit dans l'indifférence de Dieu, le mépris, le divertissement. On mange, on boit, on se divertit, on marie nos enfants, comme si on n'allait jamais mourir, comme si tout allait continuer comme ça. Il y a cette idée que notre société va en s'améliorant, alors qu'on voit qu'elle est en train d'être en décadence, qu'on ne va jamais mourir. C'est-à-dire, on sait qu'on va mourir, mais on n'y pense jamais surtout. Ne me le rappelez pas. Pourtant, on va mourir, des fois plus tôt qu'on imagine. Et il faut être prêt. Il faut se repentir de ses fautes devant Dieu. Et après, on peut manger, boire, marier ses enfants quand on est sauvé. Mais tant qu'on n'est pas sauvé, il faut se remettre en question. Ne pas être bercé dans l'inconscience. Jésus nous appelle à nous réveiller. Nous sommes comme au temps de Noé. Il y a un jour où la porte va se fermer. Ce sera la fin. Dieu va dire, c'est l'heure du jugement. Il y a un jour dans notre vie où Dieu va dire, c'est l'heure de mourir. Ta vie sur terre est terminée. Maintenant, tu vas comparaître devant l'Éternel, le Créateur. On n'est jamais prêt pour cette heure. Hein. On ne veut jamais y arriver. On dit, non, plus loin possible. J'y penserai quand je serai à la retraite. Mais qui dit que tu vas arriver à la retraite? C'est maintenant qu'il faut venir au salut. C'est maintenant qu'il faut venir à Dieu. Surtout que Dieu nous aime. Il ne veut pas qu'on vienne à lui et nous faire des reproches en disant « Ah, tu es un mauvais pécheur !» Il le sait qu'on est un mauvais pécheur. Il veut au contraire nous pardonner et nous purifier. Il veut nous donner cet amour qu'on n'a pas. Il veut nous donner cette sagesse qu'on n'a pas. Il veut nous donner une vie abondante. Christ a dit « Ceux qui croient en moi, des fleuves d'eau vive couleront de leur sein. » La vie chrétienne, c'est pas une vie de renoncement à tout où on n'a plus rien et on est là avec sa Bible et on fait plus rien d'autre. Non, dans la vie chrétienne, il y a une abondance. Mais pas une abondance de folie, d'orgueil et d'égoïsme, ou de violence. Il y a une abondance de joie, de paix, d'amour, de bien. On fait du bien. On sert les autres. On s'occupe des autres. Alors, en tant que chrétiens, nous devons avoir du discernement sur la société dans laquelle nous vivons. Pourquoi elle marche sur la tête ? C'est parce que l'iniquité règne. L'amour du plus grand nombre se refroidira et se refroidit. Mais on doit aller à l'envers. On doit être ceux qui marchent dans le sens contraire de la foule. On doit être courtois, poli, miséricordieux, patient, tolérant, de la vraie tolérance, aimant. On doit être sensible aussi au temps dans lequel nous vivons et avertir les gens. Nous sommes appelés à des témoins qui avertissent. C'est pas drôle d'être le prophète de malheur, effectivement. C'est pas le meilleur rôle, mais on peut être un prophète de malheur avec amour et dire, les amis, il faut se préparer parce que le temps est proche. Noé l'a fait. Nous sommes appelés à le faire aussi à notre époque. Et que le Seigneur nous assiste, nous donne la sagesse dans toutes ces choses. Et merci encore, Seigneur, pour ta parole qui est la vérité.